Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvot traite cette fois-ci d'identité et de constitution.
Votre plaque d'identité, je vous prie. Mais identité, orthographiée Y-D-E-M, avec trois jambes, T-I-T-E, accent aigu. L'identité, avec cette orthographe, entre dans la langue française au XIVe siècle, avec donc une orthographe qui pourrait presque la masquer. Avouons cependant qu'avec un bel Y, ça ne manque pas de panache. La lettre glorieuse disparaîtra cependant très vite en faisant émerger une identité, I-D-E-N-T-I-T-E, accent aigu, qui, remarquons-le, résistera au SMS en ne pouvant guère être raccourci. On est sauvé. Cette identité saura garder son sens premier, issu du latin idem, le même, à l'origine d'identitas, ce qui est le même, ce qui est pareil. Ainsi, en 1935, Henri Michaud, avec un enthousiasme juvénile, s'exclame « Identité, identité !» à propos de deux personnages, l'un qui dit une chose et l'autre qui allait justement dire la même chose et qui répète la même chose. En somme, Dupont et Dupont chez Tintin avant l'heure. Dès le XVIIIe siècle, l'identité devient aussi ce qui, chez chacun d'entre nous, reste toujours identique, en fondant notre personnalité, donc en nous identifiant. Pas encore de crise identitaire ou de quête identitaire, mais déjà beaucoup de guerres et, au lendemain de 1870, vient le souci de reconnaître parmi les blessés et mourants les siens. En 1881, naît ainsi la plaque d'identité, petite plaque métallique ovale, que le combattant porte au cou ou au poignet. On peut désormais identifier les corps mutilés. Pour les vivants, bien vivants, la carte d'identité apparaîtra en 1931. Désormais, la formule « vos papiers », papier d'identité bien sûr, s'installe et fera trembler ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Pourtant, dans deux dictionnaires récents, le dictionnaire des synonymes, analogies et antonymes chez Bordas, que j'ai eu la chance de diriger, et le dictionnaire des combinaisons de mots chez Le Robert, on rappelle que l'identité renvoie à la similitude et qu'elle peut être communautaire, culturelle, sexuelle, sociale, ou encore complexe, double, mystérieuse, secrète, etc. Et nous relèverons surtout fragile. Il manque cependant à ces dictionnaires une définition presque inquiétante de l'identité, imaginée par les cruciverbistes, appellation contrôlée. Debout, les constitutions. La constitution, quelle qu'elle soit, physique ou politique, suppose étymologiquement que l'on soit debout. C'est en effet l'origine même du verbe constituer, issu du latin cum, avec, et statuere, mettre debout. D'où le mot constitutio, qui désigne déjà pour les Romains le fait de fonder quelque chose. Dès le XVIe siècle, la constitution sera attestée en français dans le vocabulaire religieux en tant que cortège de préceptes transmis par la tradition. Il faut attendre le XVIIe pour qu'elle soit assimilée au texte qui détermine la forme d'un gouvernement. Cependant, la constitution, au sens moderne du terme, ensemble de lois fondamentales d'une société, ne prendra naissance qu'au cours de la Révolution française, à la suite de l'Assemblée constituante, avec la Constitution de 1791. Dès lors, les constitutions se succèdent, s'améliorent, le plus souvent, et font l'objet d'un débat permanent et naturel. Napoléon ouvre le feu en déclarant que « les constitutions, c'est ce dont on s'occupe le plus et qu'on observe le moins », ce à quoi Royer-Collard rétorque « qu'elles ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil », et Garnier de Cassagnac d'ajouter « qu'on ne trouvera jamais une constitution qui dispense les rois ou les gouvernements » d'habileté et les peuples de sagesse. Quant à la constitution d'une personne, entendons ses caractères congénitaux et psychologiques, on l'aimera de préférence pas trop délicate, en évitant de l'ébranler à la lecture des dictionnaires spécialisés, rappelant qu'elle peut être émotive, cycloïde, schizoïde, cyclothymique ou mythomaniaque. On la préférera solide, cette constitution, et même robuste. Il existe un dernier type de constitution aujourd'hui oublié. Il s'agit de celle dont Richelet donne, en 1680, dans son dictionnaire français, un exemple surprenant au pluriel. Avoir de bonnes constitutions, au pluriel. Non. Pourrions-nous bénéficier de deux constitutions en même temps ? Au XVIIe siècle, la chose est possible. La constitution y représentait aussi, en effet, une rente annuelle propre à se mettre à l'abri des soucis financiers. Vive les constitutions !